Lia Arthur, cher collègue, je te laisse la parole pour cette première soirée littéraire de l'histoire de l'Ethno Café. Vas-y, on t'écoute.
Donc ce soir, j'avais choisi donc Christiane Singer avec ce livre, Du bon usage des crises. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont lu ou pas. En tout cas, même ceux qui ne l'ont pas lu connaissent peut-être Christiane Singer. On pourrait la qualifier d'écrivain mystique, je ne veux pas d'autres mots pour la qualifier. Donc elle est née en 1943 et elle est décédée en 2007 d'un cancer. Et d'ailleurs, voilà, là elle décrit dans ce livre, dernier fragment d'un long voyage, ses derniers instants, les 6 derniers mois de sa vie. Et voilà, moi je trouve qu'elle porte une voix assez singulière dans le paysage littéraire français. Alors personnellement, j'étais pas particulièrement attirée à la base par des écrivains mystiques. Et là, voilà, je trouve qu'il y a une force assez incroyable chez elle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui tout de suite m'a déjà marquée. Et elle va vraiment explorer les dimensions spirituelles, je trouve, très profondes. Et qui elle se nourrit un peu de tout en fait, c'est-à-dire autant de la chrétienté que des traditions plus orientales, voilà, pour nourrir sa quête de transcendance. Et alors ce livre, en fait, c'est un livre qui regroupe six conférences. Donc c'est pour ça, quand on lit, ou même peut-être là quand je vais essayer d'en parler, ça pourra peut-être donner l'impression que c'est un petit peu morcelé ou qu'il y a peut-être des liens, voilà, mais moi je trouve que les liens se font quand même entre chaque partie, mais qui sont à la fois donc regroupés, à la fois on pourrait dire un peu indépendantes, mais qui traitent toutes à leur manière en fait de cette notion de crise. Donc voilà, c'est un collage, on va dire, de fragments. Alors juste avant de commencer, voilà, je vais vous dire que c'est très dur en fait de résumer une parole aussi forte, aussi puissante que celle de Singer. Donc voilà, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est voilà essayer de vous donner un résumé, mais forcément avec voilà la crainte d'amputer à des endroits sa parole. Voilà, c'est vraiment que des fragments. J'ai relevé un petit peu ce qui moi m'avait aussi marqué, mais voilà, ce sera jamais complet. Et je vous conseille, voilà, s'il y a quoi que ce soit, ou même des flous, des choses un peu obscures dans ce que je peux dire, de peut-être aussi de lire le livre qui, là, voilà, va vraiment retracer la pensée de l'auteur, qui est en fait très, très complexe. Voilà. Donc, par rapport à la crise, on va traiter ce soir. Donc ce qu'on peut commencer par dire, c'est que chacun d'entre nous peut faire l'expérience de petits mouvements internes au quotidien qui vont venir déstabiliser légèrement l'édifice émotionnel qu'on essaie de maintenir en place, à l'équilibre. Donc voilà, on a tous des moments de rupture, de rebond, etc. Mais la crise, c'est d'un autre ordre, on va dire, c'est d'un autre niveau. Et voilà, on peut la considérer comme une sorte de phase de turbulence très intense, où tout notre univers de sens va s'effondrer littéralement. Tous nos repères, nos représentations, tout ce qu'on a si minutieusement fabriqué et qui semblait aussi nous placer dans une relative sécurité, eh ben ça va être... tout va éclater en fait. Et nous pousser à éprouver aussi notre plus extrême fragilité. Et donc toutes les tentatives qu'on avait pu faire pour maîtriser notre existence, notre avenir, ou les autres au passage, ça va être radicalement pulvérisé, parce que dans la crise, on va être vraiment dans une situation de tension maximale, où en gros tous nos verrous de sécurité vont sauter les uns après les autres, et on va se retrouver vraiment submergé. Donc elle dit comment se joue la crise. Il se passe à peu près ceci, qu'une voix s'adresse à vous et vous dit « Tu as construit une vie ? Oui, bravo. Eh bien, détruis-la. Tu t'es bien battu. Tu as été courageux. Un courage extraordinaire. Mais l'heure de la reddition est venue. À genoux. Ou encore, comme pour Abraham, tu as mis au monde un fils. Bravo. Rends-le-moi. » Tous ces moments de l'intolérable, de l'inacceptable, qui sont dans l'ordre des choses vécues, dans l'ordre de l'immédiat, sont le scandale absolu. Donc c'est comme ça qu'elle commence un petit peu à parler de la crise. Donc on pourrait dire en gros que c'est un moment critique et intermédiaire. Alors vraiment cette notion d'intermédiaire, j'ai pas eu le temps de le développer, mais pour moi je me suis dit quand même que c'était important cette notion de aussi que c'est quand même une zone de transition quoi, la crise. Et c'est un moment donc intermédiaire où finalement on ne sait plus si on va vivre ou mourir. Donc ce livre-là, il aborde la crise sur de multiples aspects, donc je vais essayer d'en prélever quelques-uns. Mais en considérant surtout ce tremblement de l'être, enfin que ce tremblement de l'être va possiblement ouvrir une sorte de brèche existentielle, une brèche au plus profond de nous, dans laquelle on va pouvoir entrevoir et traverser nos ombres, mais aussi notre propre lumière. Donc ça, c'est un extrait, alors c'est pas dans le livre, mais c'est un autre extrait où elle disait, je vais aller un peu plus dans le détail après, hein. Elle disait « Seul celui qui a osé voir que l'enfer est en lui, il découvrira le ciel enfoui. C'est le travail sur l'ombre, la traversée de la nuit, qui permettent la montée de l'aube. » Donc pour elle, en fait, c'est ce dangereux vacillement de la conscience va provoquer en nous comme une espèce de chute dans l'opacité première, quoi, une sorte d'opacité des profondeurs, qui dans un premier temps va nous rendre assez aveugles, mais qui va aussi nous offrir des opportunités de résilience voilà, insoupçonnées, et aussi de transformation inédite, parce que dans la crise, pour elle, c'est comme si on était vraiment appelé à ce qu'on pourrait dire un renouvellement ontologique, c'est-à-dire c'est tout notre être qui est concerné, c'est toutes nos représentations, c'est tout. En fait, ça va chercher vraiment dans la substance la plus profonde de l'être, si on peut dire les choses comme ça. Et en fait, ça va nous reconduire, alors si on survit à la crise, peut-être presque de force à une dimension plus essentielle, dans laquelle aussi, à un moment donné, peut-être qu'on aura ce choix de réaffirmer la puissance de la vie, mais une vie après justement toute cette traversée qui va être quelque part désobstruée, libérée au moins en partie de ce qui lui bouchait la vue. Donc évidemment, ça paraît facile à dire comme ça, c'est un long et redoutable cheminement, et en fait voilà, qui peut réellement nous approcher de la mort d'une manière très périlleuse. Mais étrangement, c'est comme s'il y avait ce paradoxe en fait, que plus on s'approchait de la mort, ou presque de notre droit de mourir aussi, et plus paradoxalement on pouvait récupérer notre droit de vivre. Moi c'est comme ça que je l'entends. Donc ce que nous dit Christiane Singer, excusez-moi, je la vois un peu éraillée, mais les crises servent en quelque sorte de bélier pour enfoncer les portes de ces forteresses où nous nous tenons murés. Avec tout notre arsenal, tout l'arsenal de notre personnalité, tout ce que nous croyons être. Donc, alors, ça c'est une définition un peu globale et voilà, très, très vaste, très vague. Mais elle commence presque le livre à parler, moi j'ai trouvé ça intéressant, d'une sorte de déséquilibre collectif qu'elle va pointer. Surtout dans nos sociétés actuelles, qui est de l'ordre du trop-plein. C'est-à-dire on est vraiment, à un moment donné, pour elle, engloutie sous des excès divers et variés, sous un trop-plein, dont il faut, pour elle, justement, apprendre à se désencombrer, pour nous alléger. Et le problème, pour elle, c'est, enfin, moi, parce que j'en ai pensé, Isabelle, mais je trouvais intéressant ce passage, où elle parlait de la respiration, c'est-à-dire pour elle, le problème, c'est que nous n'arrivons plus à vider nos poumons. Et qu'en fait, on a pour elle aujourd'hui clairement un problème de respiration. C'est-à-dire qu'on est toujours poussé à pomper, à consommer, à aspirer, à inspirer. Mais c'est comme si on ne savait plus rendre au monde ce que nous lui prenons. Et donc à un moment donné, elle cite cet exemple de... c'était un maître du souffle, je crois, qu'elle devait côtoyer et qui lui expliquait que, en fait, il y avait une différence à ce niveau-là entre les occidentaux et les orientaux. Et qu'en fait, quand elle demandait à un occidental d'inspirer, de respirer, en fait, d'abord, il inspirait à fond, vraiment à fond, et presque il se bloquait en haut, et après, il libérait ses poumons, alors qu'un oriental, en fait, va d'abord souffler, vider ses poumons, et après prendre l'inspiration. Donc je trouvais que cette anecdote était assez parlante. Et moi après je me suis demandé, mais moi si on me demande ça, qu'est-ce que je fais en fait? Je commence par inspirer, par expirer. Et je me suis dit, en fait, oui, je commencerai par inspirer.
Oui,
c'est vrai. Du coup, ça m'a marqué, parce que je me dis, je ferai exactement la même chose finalement.
Elle expliquait un moment, parce que j'ai suivi, ça m'intéressait, c'est qu'on trouve dans le mot allemand Atmen. Et c'est vrai qu'on dit respirer, c'est expirer, ça veut dire expirer dans certaines langues orientales. C'est ça, hein, c'est,
oui, oui.
Quand on dit on respire, on expire.
On expire, ouais.
Alors que nous, pour nous, c'est.
L'inspire.
Quand on dit respire, ça veut dire.
Voilà. Ouais, c'est ça. voilà. Donc, voilà, pour elle. Alors, je fais une parenthèse parce que, je veux dire, pour là, on est devenus des sortes de goinfres et de machines à engloutir. Ce livre sur la crise, hein, je fais juste cette petite parenthèse, il n'est pas dénué d'une. Elle est très critique, je veux dire, c'est pas dénué d'une certaine révolte aussi. Moi j'avoue que je suis très sensible à ça et que du coup ça m'a. Enfin, moi ça me fait du bien en fait quand je dis des choses comme ça personnellement. Et donc voilà, et puis avant finalement pour elle, en fait on a, à force d'absorber comme ça et ces difficultés de rendre au monde, on a rompu l'échange constant qui unit l'un et le tout. En fait, en oubliant ce simple mouvement de respiration harmonieux qui consisterait simplement à accueillir, restituer, prendre, donner, etc. Et donc, c'est comme si à un moment donné, on respectait plus le rythme naturel, et ce qui favorise une sorte d'accélération un peu folle, mais aussi de sentiment d'étouffement. Et on va être du coup amené à faire pencher la balance d'un côté. Et notamment, voilà, elle parle à un moment du fait que, par exemple, on fait l'éloge du plaisir, de la jeunesse, voilà, de tout ce qui peut sembler attirant, mais qui n'est qu'une seule petite et infime version de l'existence, quoi. Au détriment de l'être pur et simple, de la disponibilité, la patience, la croissance douce, la dimension contemplative. Et donc en conséquence, ben, on va finalement bannir un petit peu et mépriser toute une dimension qui participe à cette harmonieuse fluctuation des rythmes et au sentiment que ben, tout répond à tout et que tout peut finalement aussi coexister positivement dans une logique aussi de non-rendement. Voilà, ce qu'à un moment donné, pour prendre en compte cette deuxième version des choses, il faut peut-être avoir un pas de recul et sortir d'une logique de productivité à tout prix. Et elle dit à savoir ben, la maladie, la souffrance, la mort, l'effort, l'apprentissage, la responsabilité, la vieillesse. Donc pour elle, en fait, une des premières choses finalement que permet la situation de crise, c'est d'apprendre à nous désencombrer, à expirer, à réintégrer aussi en nous toutes ces dimensions qui ont été finalement complètement occultées ou qu'on a tendance à occulter pour retrouver une sorte d'alliance bénéfique des contraires, c'est-à-dire à un moment donné, plutôt que de vouloir aplatir le réel, on va lui donner du relief, on va le chercher à le complexifier, à le densifier en réintégrant vraiment toutes les versions, en les réintégrant positivement en nous, ces versions-là. Donc elle dit, c'était dans une émission de radio ça, où elle disait « Toutes les crises, les séparations et les maladies, et toutes les formes, tout nous invite à apprendre et à laisser derrière nous. La mort ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu posséder. Le reste, elle n'a pas de prise sur le reste. Et c'est dans ce dépouillement progressif que se crée une liberté immense et un espace agrandi, exactement ce qu'on n'avait pas soupçonné. Moi, j'ai une confiance immense dans le vieillissement, parce que je dois à cette acceptation de vieillir une ouverture qui est insoupçonnable quand on n'a pas l'audace d'y rentrer. » Ouais, c'est ce qu'elle dit, et là je vous encourage vraiment à lire ce livre, Dernier fragment d'un voyage, parce qu'elle opère des sortes de retournements, c'est quand même ses derniers instants, donc c'est vraiment effectivement son dernier voyage intérieur aussi. Elle opère voilà, des retournements de conscience incroyables, où on voit qu'elle garde en fait quelque part cette ligne-là jusqu'au bout, jusque devant la mort, jusqu'aux portes de la mort, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça qui m'a émue, je pense, en fait. C'est le premier livre hein, que j'avais lu d'elle, et du coup, c'est ça qui m'a émue. Je me dis que waouh, là, il y a vraiment quelque chose jusque devant la mort, il y a quelque chose de très très fort. Et donc un autre point qu'elle aborde, que j'ai relevé parce qu'il me semblait intéressant, c'est que dans certaines sociétés traditionnelles, la notion de crise n'existe apparemment tout simplement pas. Et elle est remplacée par la notion de rite initiatique, qui est une manière, alors là je le dis très très grossièrement parce que c'est très complexe le rite initiatique, donc je ne vais pas aborder ça à fond là aujourd'hui, mais on pourrait dire une manière de mourir et de renaître. Et du coup elle raconte qu'un de ses amis anthropologues lui avait raconté que, en fait lui disait qu'il y a, en fait il avait rapporté les mots d'un Africain qui lui disait « Mais non monsieur, nous on n'a pas de crise mais nous avons des initiations ». Et en fait, pour elle, ce qui rend la crise aussi cruelle aujourd'hui dans notre monde contemporain, c'est justement cette absence de rite initiatique, parce que le rite, aussi dur soit-il, alors d'ailleurs, elle racontait vite fait que il y avait elle racontait que par exemple chez les aborigènes, ils enterraient, je crois, leurs jeunes garçons 3 jours sur des feuilles mortes pourries. Voilà, donc il y a des rites qui sont vraiment très très durs, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du sens, de l'encadrement. Ou aussi après l'initié, donc non seulement il va être quelque part accompagné dans ce passage vers un autre état de l'existence, ça fait partie d'un rituel collectif et ça peut aussi du coup, cette phase de transition, renforcer un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc en ce sens, voilà, il y a quelque chose qui, où on n'est pas seul quoi, et qui est assez encadré malgré tout par des règles quoi, sociétales. Alors que dans la crise aujourd'hui, ben, on est souvent... livrés à nous-mêmes dans l'épreuve, un peu dans l'errance. Donc on va cheminer un petit peu seul dans l'inquiétude et le désœuvrement. Et c'est là où on va vivre finalement ce qu'on pourrait appeler une initiation sauvage et un peu désorientée du coup. Mais pour elle moi je trouvais ça assez passionnant. Donc plus tard dans son livre, ça elle le dit au début, et plus tard dans son livre, elle dit quelque chose que je trouve assez... assez passionnant, parce qu'elle revient sur la notion d'initiation justement. Elle dit que pour elle, l'intention d'initiation, c'est pas forcément de venir à bout de nos peurs ou même de surmonter notre condition humaine et tous ces grands questionnements, parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Mais c'est ce qu'elle appelle délimiter son royaume. Et j'ai beaucoup aimé, je vais juste vous lire ce petit passage parce que je suis encore en train de réfléchir dessus, alors ça chemine en moi en même temps. Ce qu'elle dit, c'est dans une initiation, ne croyez surtout pas que l'on va vaincre la mort, vaincre la peur, vaincre la solitude, vaincre la faim. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On regarde la mort, on a croisé le regard de la peur, on a croisé le regard de la solitude, on a délimité leur royaume. On a laissé leur royaume à la mort, à la peur, à la faim, à la solitude. Voilà votre royaume. Les limites sont claires. Aujourd'hui, je me situe face à vous. Je reconnais votre présence, votre grandeur, je la reconnais. Mais ceci est mon royaume. L'initiation, ce n'est pas de vaincre, ce n'est pas d'être plus fort qu'eux, mais de délimiter un royaume. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant comme idée. Et la question qui s'ensuit, et sur laquelle elle reviendra aussi, et notamment par rapport à la propre crise qu'elle a pu vivre, c'est finalement qu'est-ce que je fais rentrer dans mon royaume. Parce qu'une fois que les limites sont claires, c'est là où on peut décider ce qu'on veut faire rentrer ou pas dans son propre royaume. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je sais que j'avais eu comme un petit éclair au moment où j'avais lu ça, et je m'étais vraiment demandé, waouh, j'avais trouvé ça très beau même dans les mots, de délimiter son royaume, voilà. Et donc elle parle relativement peu d'elle, mais elle en parle quand même un petit peu dans ce livre. Et alors ce qu'elle dit d'elle, c'est qu'elle a eu une existence quand même relativement préservée. Ça, elle le reconnaît très bien avec plein de processus d'évitement. Jusqu'au moment en fait, donc la crise pour elle est survenue après 15 ans de mariage où une autre femme est venue rompre la sérénité du mariage. Bon, elle s'est fait tromper au bout de 15 ans de mariage et ça a été pour elle, pourtant elle avait déjà fait un long cheminement spirituel, hein, j'ai envie de dire à ce moment-là. Mais c'est là où on se dit, quand la crise vous tombe dessus, elle vous tombe dessus. Et j'aimerais juste, du coup, vous, si vous me permettez, vous lire un peu cet extrait où elle parle de ça. Donc, après avoir traversé une existence très préservée, très occupée à éviter les naufrages, toute cette adresse à passer entre les catastrophes, entre les blessures, et subitement, après 15 ans de mariage, l'arrivée d'une autre femme. J'ai souvent pensé à cela, que ma première vie m'a été donnée par ma mère et la seconde par cette femme, l'arrivée dans une existence préservée d'un autre être qui du jour au lendemain détruit l'univers que vous vous étiez construit. Et la traversée, pendant 2 ans, 3 ans, de la solitude, de l'abandon, dans un pays étranger, dans un village au bout du monde, et la rencontre du travail de Durkheim et d'une remarquable femme, son élève, qui travaillait avec la voix, Hildegunde Grobner. Alors que j'attendais d'elle qu'elle me donne la force de faire mes bagages et de partir avec mes fils, elle m'a dit « Tu restes là, assise au milieu de ton désastre, là. » Tout le travail que j'ai fait par la suite avec le corps, avec la présence au monde, aux choses, cette leçon, non seulement d'accepter l'inacceptable, mais d'y entrer, d'y établir ses pénates, entrer dans le désastre, à l'intérieur, et y rester, non pas fuir, mais oser rester, à l'endroit où je suis interpellée, à cet endroit où tombent tous les masques, où tout ce que je n'aurais jamais pu croire s'avère être en moi, tous les démons, toute l'ombre. Les paroles éclatent et tous les démons déferlent dans la vie, la jalousie, l'envie de meurtre, l'autodestruction. Et je reste là et je regarde. Donc bon, voilà. Et donc elle évoque après, finalement, 2 modèles qu'on a le plus souvent, en Occident en tout cas, pour sortir de la crise. Donc le premier, c'est le défoulement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va expulser violemment tout ce qui nous étouffe. Donc c'est un plan d'urgence qui elle reconnaît que ça a des grandes vertus thérapeutiques. Et d'ailleurs, plus loin dans le livre, elle dira que sans laisser s'écouler la boue, il n'est pas de parole claire, de bénédiction. Ou encore, aussi longtemps que je cohabite avec mes vieux cadavres, l'empoisonnement de la source est fatal, la honte secrète me bâillonne. Voir mes détresses profondes mises à jour m'angoisse plus que s'il s'agissait de crimes. Or, nous ne parvenons à la bonne parole, claire et vive, que lorsque nous avons vidangé nos citernes. Donc voilà. Le deuxième, c'est le refoulement. Donc c'est là où on va retourner la force de la douleur contre nous, contre soi, au risque, le problème c'est que ça, le risque c'est de laisser macérer le ressentiment et de devenir nous-mêmes ce nid de vipère, comme elle dit à ce moment-là. Et justement, il y a cette troisième voie, dont voilà, on entend parler à travers certaines philosophies ici de plus en plus peut-être, et qui nous vient d'Extrême-Orient, et c'est celle justement, comme elle dit, de rester au milieu de la catastrophe, sans se laisser distraire, sans fuir ou minimiser les impacts, juste rester avec ce qui est, s'asseoir au milieu du désastre et devenir témoin, réveiller en soi cet allié qui n'est autre que le noyau divin en nous. Donc, rester en présence de nos drames pour que, paradoxalement, au bout d'un moment, un très léger détachement, alors on pourrait dire, c'est presque le détachement du coup de l'observateur, celui qui observe, puisse se produire. C'est-à-dire un millimètre de recul qui tout à coup peut nous donner à voir autrement la scène qui est en train de se jouer et de se rejouer à l'intérieur de nous. Et comment peut-être ce millimètre de recul qui est dans cette position d'observateur, peut-être commence à dissiper à ce moment-là le brouillard mental. Donc se rester avec, en fait, ça peut vraiment nous inviter à une exploration minutieuse de l'être. Par exemple, on pourrait dire si vous restez immobile et que vous fixez, un objet devant vous comme ça, vous allez voir aussi qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses qui vous apparaissaient pas et qui tout à coup vous sautent aux yeux. Dans la texture, la forme, le relief, Et donc c'est un peu le même principe pour moi dans ce qu'elle dit. Enfin, c'est mon interprétation. C'est on reste avec et tout à coup il y a des choses qui vont se dessiner à force de regarder, de regarder, de regarder, même l'objet finalement va nous apparaître complètement différemment. Donc c'est un petit peu la voie de la non-résistance taoïste, hein. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'aller dépenser son énergie à lutter, on va presque rester au milieu du chaos, le contempler, et c'est cette légère distance de l'observateur. Si on arrive en fait, s'il y a un observateur en nous à ce moment-là qui peut observer, parce que ça pour moi ça se discute aussi, donc ça peut aller pour elle jusqu'à produire au bout d'un moment comme un espèce de déchirement des tissus de l'existence, et ouvrir une sorte de passage inattendu qui va finalement élargir notre regard, l'éclaircir et qui pourrait presque nous conduire, pour elle en tout cas, alors si on parle d'années, on parle de voilà, mais si ça se produit à un moment donné, ça peut presque nous conduire à un moment d'illumination presque mystique, une expérience de communion très intense avec la grâce. Et si vous lisez ce livre, vous voyez qu'elle parle, bon, elle donne plusieurs exemples que là j'ai pas pu tout répertorier, mais notamment voilà, d'une femme qu'elle a rencontrée qui avait perdu son fils unique, et après des mois et des mois et des mois de chagrin inconsolable à se regarder dans le miroir, tout à coup il y a eu ce millimètre là, et elle a vu le visage, en plus son propre visage finalement dans le miroir, et elle s'est dit ouais, voilà le visage d'une femme littéralement dévastée, et elle a eu comme un choc en fait face à sa propre image, et ce qui lui a permis tout à coup de considérer son deuil d'une autre façon en fait. Et bon, toi qui l'as lu, hein, tu vois de quoi je parle. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qu'elle nous dit, donc elle revient à plusieurs reprises là-dessous, c'est une vraie question, c'est que alors qu'en fait tout s'emballe et se délite, c'est comme si on avait une chance à ce moment-là de retrouver en nous un espace préservé, non souillé, un espace comme un peu hors d'atteinte, une sorte de point d'appui stable qui va rester un peu inébranlable, quelles que soient les agitations de surface, ce que elle va appeler un noyau infracassable. Elle dit, il existe, paraît-il, dans un maelstrom, un point où rien ne bouge, se tenir là. Donc c'est vraiment pour moi cette question, il y a beaucoup d'auteurs que j'ai lus qui ne sont pas du tout des mystiques un peu comme Saint-Germain, mais qui répondent tous à cette question d'une manière très différente. Mais c'est que reste-t-il quand il ne reste rien finalement ? Et pourtant, on peut peut-être faire l'expérience qu'il va rester quelque chose, un endroit vraiment très préservé en nous. Et pour elle, c'est vraiment dans cet espace qu'on va être invité à faire l'expérience d'une sorte de liberté, le mot véritable est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'une liberté libérée. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque découvrir que ma liberté ne dépend plus que des conditions, des circonstances extérieures et des interférences qui vont finalement me séparer de ma nature plus originelle. Donc voilà, en fait, quand l'échafaudage s'effondre, quel monde après encore inconnu finalement peut se révéler à moi. Bon, à un moment, je sais pas pourquoi je l'ai calé là, mais elle citait Rilke. Alors moi, j'adore quand on cite Rilke. Alors j'ai juste repris la citation de Rilke, et de défaite en défaite, il grandissait. Et là, si vous me permettez, je vais refaire une petite citation de Christiane. Il est essentiel de prendre soin de ce ciel en nous, invisible aux autres, de ce sanctuaire que la vie nous a édifié et que peuplent les messagers, ceux qui, de façon multiple, nous ont inspirés, conduits vers le meilleur de nous-mêmes. Dans tous les lieux habités par la souffrance se trouvent aussi les guets, les seuils de passage, les intenses nœuds de mystère. Ces zones tant redoutées recèlent pourtant le secret de notre être au monde. Ou comme l'exprime la pensée mythologique, là où se tiennent tapis les dragons, sont dissimulés les trésors. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur, comme vers un puits profond, retrouve la trace perdue. Ouais, j'ai trouvé ça très beau. Et donc pour elle, un des écueils aussi qu'elle dénonce dans ce livre, c'est-à-dire ce qui rend les crises si difficiles à surmonter aujourd'hui, c'est que pour elle, l'homme est coupé de sa transcendance. C'est-à-dire qu'en fait, il va un moment peut-être se retrouver un petit peu perdu dans un monde assez matérialiste et pris dans un réseau de relations purement horizontales, au détriment peut-être à un moment donné d'un désir d'élévation autre. Et pour elle, et donc ça c'est toute une de ses conférences qui parle de ça, cette perte de transcendance, ça passe avant tout par une dégradation de la relation entre l'homme et la femme, d'une manière très, très incarnée. Hein. Je vais vous lire un petit passage, elle parle des affiches, de plein de choses, et elle dit qu'elle est d'ailleurs toujours assez effarée quand elle revient en ville. Donc je voulais juste un petit passage là-dessus. Je vais juste voir jusqu'où je vais. Voilà. Le grand préhistorien, le roi Gourin, a montré que partout où surgit un premier moment de culture, le sacré et la sexualité sont liés. La sexualité est toujours une manifestation du sacré, de cette entrée de l'homme et de la femme dans la résonance de la création. Lorsqu'une société veut couper l'homme de sa transcendance, elle n'a pas besoin de s'attaquer aux grands édifices des églises ou des religions. Il lui suffit de dégrader la relation entre l'homme et la femme. Toute société dictatoriale ou mercantile comme la nôtre ne s'en prive pas. Sans cela, comment persuader les hommes de leur incomplétude? Comment leur faire croire qu'ils ont besoin de 1000 ersatz, de 1000 choses pour survivre? C'est le seul moyen d'en faire des êtres en manque, des êtres qui réclament sans cesse à corps et à cri au dehors ce qui leur manque à l'intérieur. Et les tournant vers l'extérieur, on les dépouille de cette dimension d'intériorisation qui en fait des êtres libres. Ça va pour toi?
Tu disais qu'elle aimait pas venir en ville.
Oui, ah oui, bah du coup oui, mais en fait finalement j'ai pas.
Des images,
oui, c'est ça en fait, parce que effectivement c'est plus loin. Alors ouais, du coup, effectivement je m'étais dit que je m'arrêterais peut-être là, mais pas là, mais page 37, 38. Ouais, peut-être que je vais vous lire juste un petit peu plus. Aucune société n'a jamais eu les moyens techniques d'abjection qu'à la nôtre pour dégrader l'amour et pour dégrader par la même tout ce qui est spiritualité. C'est une gigantesque entreprise, une gigantesque conspiration pour imposer toutes les images possibles de la dégradation. Je vis à la campagne depuis quelques années et je suis par contraste effarée quand je reviens dans une grande ville après des mois d'absence. Avec toutes ces affiches, on a l'impression que la ville entière est tendue de peau et que les écarisseurs et les dépeceurs sont à l'œuvre. Il y a quelque chose d'effarant à voir comment s'opère autour de nous ce dépeçage de l'être, sans que nous poussions des cris, sans que nous puissions arrêter quelque chose. Voilà. Le dépeçage de l'être. Moi, j'ai retenu cette expression qui m'a marquée. Il y a des expressions très très fortes qui sont fous. Donc pour elle, elle parle beaucoup de l'amour, pas que dans ce livre. Hein, je veux dire, elle est traversée vraiment, par cette pensée, oui, sa révélation. Je sais pas comment l'appeler, parce qu'en fait, c'est pas résumer ce qu'elle entend par amour comme ça. Je pense que voilà, mais en tout cas, c'est au centre vraiment de ses préoccupations, et ça tient une grande place hein, dans ce livre aussi, l'amour sacré. Et je pense que du coup ça fait aussi écho finalement à ce qu'elle-même a vécu dans son histoire, voilà, avec l'histoire de tromperie, d'amour. Je pense qu'elle a dû au fond peut-être à ce moment-là redéfinir, enfin moi c'est comme ça un peu que je l'ai perçu dans ce livre, redéfinir tout ce qu'était l'amour et son rapport à l'amour à ce moment-là, et à l'amour sacré aussi.
Son origine est importante aussi, hein. Son histoire de vie, son histoire, son entrée dans la vie est importante.
Alors ça c'est vrai que j'ai pas du tout mis de marque, mais après, si tu veux,
à la fin du livre, elle évoque le fait que elle doit sa naissance et sa vie en fait au renoncement de ses parents d'avorter en fait, parce qu'elle est née pendant la guerre, à un moment où ils ont pu avoir peur de l'avenir pour elle, et se sont posé la question. Ils ont été jusqu'au pratiquement 5 minutes avant cette décision. Ils attendaient le médecin et ils ont renoncé. Donc il y a quelque chose de très fondateur aussi pour elle. Enfin, en tout cas, le site, je pense que c'était important qu'elle soit rentrée dans la vie par ce choix de ses parents de miser sur la vie contre quelque chose qui pourrait les conduire à l'inverse.
Merci pour cette précision, parce qu'effectivement c'est très éclairant du coup par rapport à plein de choses qu'elle dit. Ça va pour tout le monde? Je continue un peu. Donc pour elle, l'amour sacré, il faut vraiment lire son livre parce que c'est compliqué. Puis elle, bon, je ne peux pas vous dire tout ce qu'elle dit sur le sacré, parce qu'à un moment donné, elle parle du sacré aussi comme... comment dire, il y a un passage nécessaire par la révolte dans le sacré, mais là, je ne me suis pas attardée là-dessus. Donc pour elle, l'amour sacré, ça va être vraiment un antidote puissant qui va vraiment répondre à notre quête de complétude. Et pour elle, cet amour-là, il est complètement visionnaire et non aveugle, parce que À un moment donné, l'autre va me révéler à ma propre nature divine et me permettre de vivre une expérience, on va dire, transformatrice, inoubliable, qui va vraiment transcender les limites du disciple. Et ce qui est contacté à ce moment-là de l'ordre de l'absolu se retrouvera comme isolé de la durée, c'est-à-dire inscrit dans l'éternité de ma propre présence au monde. Et ça, c'est important à comprendre, je trouve, dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose qui est traversé momentanément. C'est-à-dire qu'il y a en nous une inscription très forte qui continue à œuvrer, à se manifester dans le temps. Et elle prend l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez Héloïse, c'est une érudite en fait qui vivait au Moyen-Âge, je crois, si je dis pas bêtise, au XIIe siècle. Et l'histoire d'Héloïse et Abélard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et donc elle a beaucoup, hein, je crois même, c'est à la fin du livre dessus, mais en tout cas elle m'a beaucoup parlé. Oui, c'est ça. Ah bah oui, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, un livre enfin, magnifique. Enfin, elle a ressorti ici même aussi des extraits de lettres que je trouve vraiment absolument magnifique. Et donc elle, en fait, donc c'est une des premières femmes d'ailleurs à le faire, elle va réaffirmer avec force la dimension sacrée de l'amour contre une vision de péché religieux. Alors d'ailleurs même que la personne aimée, Abélard, à un moment donné a finalement rejeté presque comme une faute tout ce qui les avait unis de l'ordre du désir dévorant. Donc à une époque où l'Europe est en fait dévastée par les guerres, les famines, les instincts belliqueux, et bien tout à coup, le lyrisme amoureux fait son apparition, qui venait sans doute d'ailleurs du lyrisme islamique du 9e et 10e siècle. Et alors, et là je cite, « Ce qui a lieu alors, Denis de Rougemont l'a appelé la plus grande convergence spirituelle de l'histoire de l'Europe. Une floraison subite de la chose la plus inattendue dans cet univers de violence, l'âme du féminin, l'apparition de l'anima. Une dimension de tendresse, d'attention, d'écoute aux choses. Ce que la religion elle-même n'avait pas réussi, faire comprendre aux guerriers, aux chevaliers morts et aux chevaliers chrétiens, l'équivalence entre amour et pardon des offenses, amour et bonté, amour et tendresse pour le monde, pour l'entière création. C'est par la fine amour que les chevaliers le comprendront. On découvre alors, comme l'a dit Stendhal dans De l'amour, qu'il est d'autres délices sur terre que de massacrer et de tuer. Apparaissent alors subitement des personnages qui incarnent cette dimension et qui osent, face à l'esprit destructeur de l'époque, à la violence et à la dureté, manifester autre chose. Chez Héloïse, ce que l'on retrouve pour la première fois, c'est cette femme qui dit, face à tout ce qu'on croit à l'époque, face à tout ce qu'on pense à son époque, « Non, moi je sais ce que j'ai vécu. Je ne suis pas prête à le renier. Je ne suis pas prête à m'en repentir. Ce que j'ai vécu au fond de moi-même, c'est une ouverture au sacré, une ouverture au divin, et je porte témoignage. » Voilà. Donc pour elle, en fait, l'amour sacré dont elle parle, ça va se dévoiler notamment par une sorte de volonté d'élever l'autre et de le rendre aussi à ce qu'il a oublié de lui, comme il est dit dans le chant d'Alcuine, tu erres parmi les mendiants sans te souvenir de qui tu es. Donc l'autre n'est plus seulement responsable à ce moment-là de ma survie, par les liens de dépendance affective que je vais créer avec lui, c'est-à-dire qu'il nous ennoblit. Et elle dit, le regard de celui qui m'aime, ce regard qui voit en moi ce que je suis dans ma profondeur, me rend à ma royauté. Donc pour elle, l'amour, ça peut vraiment être, et aussi l'amour du coup amoureux, une voie d'accomplissement possible si cet acte de libération qui va engager toute ma personne. Ça va impliquer aussi d'accéder à un amour qu'on pourrait dire un peu désaliéné qui, il faut être très honnête, est très difficile, voire peut-être impossible à atteindre sur le plan humain en tout cas. C'est-à-dire qu'il va un amour vraiment débarrasser des droits qu'on croit avoir sur lui, de tout chantage, de tout prise d'otage, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, les êtres vont se heurter les uns aux autres et vont finalement faire obstacle à tout ce qui à cette visitation. Et donc pour elle, tout ce qui fait que la passion amoureuse devient destructrice, c'est justement quand elle est séparée de la communion sacrée. Et donc voilà, c'est très très beau. Enfin, elle parle aussi voilà, de conserver aussi cette gratitude à l'égard de ceux qui nous ont rendus capables d'aimer et qu'on a aimé parce que c'est eux qui nous ont, elle dit, mis le goût de Dieu sur la langue et toute l'histoire, l'histoire justement de ces êtres qui après viennent se frotter, etc., n'enlève pas ce qui a été vraiment touché, contacté à cet endroit-là. Et ce qu'elle dit aussi, ça va, je suis dans les temps encore. Je suis dans les temps.
Oui, ok. Tout va bien.
Ça va.
Ouais.
Ouais, c'est bon.
C'est 40 minutes.
Mais ça va pour tout le monde. Je peux continuer. Ouais.
Prends ton temps.
Donc, ce qu'elle dit aussi, et ça, ça m'a quand même étonnée, c'est que rien de ce que nous vivons est d'ordre privé. Alors moi, j'ai ça. Je suis comment ça? D'ordre privé.
Je pense que c'est une
là, voilà. Ah, et, ouais, c'est, je pense, ouais. Et je me suis dit bon, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et elle précise notamment, et pas même la qualité d'amour que nous partageons dans l'intimité et qui sont finalement ne concernés que nous, quoi. Hein, je veux dire, là, c'est l'amour, il n'est pas fait forcément pour être vu. Et alors, il faut l'entendre ainsi, je pense, c'est-à-dire que toutes les frontières finalement sont poreuses et que l'infiniment petit et l'infiniment grand se répondent en permanence. Ce sont des vases communicants. Donc finalement, tout ce qu'on croit vivre dans le secret de nos vies, c'est comme si ça allait aussi avoir des répercussions dans une autre sphère de l'existence et qui a finalement, et elle insiste beaucoup, elle a, il y a des passages très beaux là-dessus, c'est comme s'il allait y avoir en permanence et malgré moi, moi c'est surtout ça, c'est-à-dire c'est malgré moi, il va y avoir une sorte de contamination de mes actes, alors soit une contamination entre guillemets positive ou non, mais aussi de ma façon d'être au monde, de ma façon de relationner avec le monde, avec les autres et jusque dans mon intimité la plus profonde. Et ça va finalement se propager tout ça autour de moi, avec ou sans mon accord. Donc, comme le dit aussi un proverbe tibétain, lorsque j'arrache une herbe, j'ébranle le monde dans ses fondements. Donc, ce livre de Saint-Gerge, du coup, il pose vraiment cette question à un moment, et il y a des longs passages là-dessus, c'est celle de ma responsabilité envers les autres, envers le monde. Celle de cette interdépendance constante que elle valorise, qui d'ailleurs pour elle, ça, enfin, dans ce que j'entends, ça devrait même pas être forcément une question, quoi. Tout est complètement interrelié. Voilà, donc celle vraiment de l'imbrication de mon être dans ce réseau plus vaste qui constitue le monde, et du coup aussi ben, celle de ma qualité d'être, c'est-à-dire la qualité d'être que je vais cultiver. Et qui va produire une résistance, une résonance invisible autour de moi et finalement venir s'intégrer vraiment à toute cette intelligence collective qui est foisonnante et à laquelle je vais participer inévitablement. Je pense qu'il ne faut pas lire et entendre ce discours de manière culpabilisante. Parce que là, ce serait écrasant et complètement inapproprié. Mais c'est une vraie question très difficile, très compliquée, celle de ma responsabilité individuelle et de toutes ces correspondances finalement inévitables entre la partie et le tout. Et du coup, toujours la même question que je crois j'avais déjà posée finalement dans le livre de l'insurrection poétique, dans l'introduction, c'est qu'est-ce qu'on choisit finalement d'incarner, d'injecter nous-mêmes dans le monde, et ce qui va commencer à créer une forme de réalité. Et donc, si je peux encore vous lire un petit passage. Alors, je l'ai lu là à mon compagnon, là, juste avant de venir, il m'a dit tu vas les plomber. Bon,
c'est dit.
Donc, faut que je censure. Le début est un peu, effectivement, mais bon. Alors je me suis dit, bon, eh ben tant pis, on va les plomber. Alors seulement commence la responsabilité envers le monde, quand on s'aperçoit combien de choses on fait souffrir de sa souffrance, combien de choses et de gens et d'êtres étouffent de notre étouffement, de notre ressentiment, de notre haine, que de choses sont prises dans le réseau de nos désespoirs, que de choses nous entraînons dans nos dépressions, combien de plantes meurent autour de nous dans notre appartement. Combien de morts entraînent nos dépressions? Prendre conscience de toute cette queue de comète que nous entraînons avec nous dans une existence. Prendre conscience de ce qui se produit dans un renversement d'une modestie infinie, quand nous commençons à prendre au sérieux les gestes que nous faisons sur cette terre. Quand je commence à comprendre les conséquences qu'a la manière dont je verse à boire, dont je te tends la main, dont j'entre dans le jour au matin, et avec quelles pensées ? Est-ce que je vais grossir ce nuage noir au-dessus de la ville ? Ce nuage noir de pensées mauvaises, de ressentiments, d'impuissance ? Ou est-ce que je pose en ouvrant les yeux une autre image, un autre accent ? Est-ce que je crée un autre champ vibratoire où d'autres, peut-être en attente, vont pouvoir, comme dans un réseau d'ondes, se brancher à leur tour ? Peut-être que quelqu'un aujourd'hui a une pensée d'amour et sans le savoir je l'ai captée. Que de choses, que d'êtres nous entraînons sans le savoir dans le réseau de nos lumières, de nos espérances, de nos images. Voilà, ça y est, vous êtes plombée.
Pas du tout. Raté.
Non, bon, ça va. Mais c'est parce que je m'étais arrêtée au passage de la dépression quand j'ai lu ça. Donc, c'est bon, mais c'est la fin. Je suis, mais attends, c'est pas fini.
Non,
mais
attends, c'est bien longtemps.
Mais oui.
C'est agréable d'entendre que même les gens ont de dépression. Ouais. Ça donne envie de ne plus être déprimé.
Bah oui.
C'est vachement efficace.
C'est ça, c'est cette prise de conscience qui est jamais. Moi, je trouve qu'elle est. C'est ce que je me suis dit en disant ça, c'est qu'elle est jamais assez aiguë, quoi. En fait, c'est. Pour moi, à titre personnel, je me suis vraiment dit ça, c'est que il y a toujours tellement de relâchement à ce niveau-là. Et là, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, je commence à resserrer cette conscience-là autour de mon enfant en me disant tout ce qui va m'affecter maintenant va m'affecter lui. Et je me dis, voilà, il y a une conscience déjà très grande qui se joue. Enfin, très grande. En tout cas, une conscience qui joue autour de ça. Mais je me suis dit, il a fallu que j'attende d'avoir un enfant presque, en fait, pour me rendre compte. Alors que c'est beaucoup plus vaste et c'est constant. Et ça touche tout autour de nous, en fait. Bon, c'était la petite parenthèse, mais voilà.
Si je peux me permettre, oui, sur les enfants, il y a un truc important aussi.
Oui, qui sont nos maîtres.
Qui sont nos maîtres aussi.
Tout à fait.
Ça montre qu'il y a quand même quelque chose, une communication qui se fait des.
Tout à fait.
Voilà. On est, eux et nous, en lien très très fort, au point qu'on en devient esclave hein, aussi, de ce lien-là.
Bah ouais, alors, ouais, elle dit esclave, mais elle dit surtout des. Comment dire, ils nous enseignent quoi.
Oui, oui.
Voilà, c'est. Mais oui, oui. Mais c'est vrai que ça c'est un passage justement que j'ai choisi de pas. Je pouvais pas tout prendre, mais effectivement, c'est très beau, tous ces passages sur les enfants, sur le fait qu'en fait, ils sont nos maîtres parce qu'ils nous enlèvent nos masques et que. Ouais, c'est très, très beau. C'est ça, les révélateurs de nos ombres, exactement comme tu dis. Donc c'est vrai que. Voilà. Mais il fallait que je sélectionne parce que je savais que j'avais un temps très limité et je trouvais même que mon intervention était trop longue. J'ai quand même vous lire encore un peu de ça. Alors ça, c'est pas dans ce livre, mais c'est dans... je l'ai pas noté, mais c'est pas dans ce livre où elle dit « N'y a-t-il pas grand bonheur à savoir que toutes les eaux de la terre sont reliées par le jeu subtil des infiltrations et des nappes ? N'y a-t-il pas grand bonheur à savoir que les vivants, bêtes et gens, sont reliés par d'invisibles rhizomes ? Une seule respiration pour tous sous le soleil. Il n'y a que les sceaux qui ne veulent être que soi et ne se réjouissent pas d'un si vaste lignage. » Et la dernière, qui est courte, qui est, elle dit « Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra devenir source. » Vraiment magnifique. Donc aussi pour elle, je continue pour justement laisser de la place au débat. Donc pour elle, voilà, il faut vraiment s'armer contre la diffusion de la laideur, ne pas participer au spectacle des images mortifères qui envahissent l'espace public. Et alors c'est là que moi j'ai noté une distinction qui m'apparaît très importante et qui me semble apparaître dans ce livre, même si elle ne dit pas les choses comme je vais les formuler, mais c'est comme ça que moi je l'ai entendu. C'est vraiment cette distinction radicale entre la laideur et le passage par les ombres dont elle parle. C'est-à-dire qu'en fait, la laideur pour elle, et qu'elle dénonce voilà, avec une grande force de conviction, c'est une sorte de ressassement mais artificiel, en fait, d'images, de discours ou autres, qui vont vraiment être conçus pour nous épouvanter et pour activer nos pires compulsions, notamment de peur. Et ce qu'il faut comprendre dans la manière dont elle en parle, c'est qu'il y a quelque chose de factice là-dedans. Il y a quelque chose de stérile, de factice, et c'est comme une contrefaçon. dans la laideur, il y a une espèce d'hypervisibilité en fait, qui va devenir une sorte d'agression collective. Et finalement, on va s'accoutumer. C'est comme une accoutumance à une vision sensible du monde qui est malade et déficiente. Et on s'accoutume à ces nourritures terrestres, pour reprendre le mot de Gide. Donc on va s'accoutumer à ces nourritures terrestres. Et du coup, c'est ce qui va venir finalement nous attaquer les êtres dans leur fondement sacré. Alors que le passage par les ombres, qu'on va connaître dans l'épreuve véritable, enfin tout ce dont elle parle, ce travail par l'ombre, et tout, c'est vraiment, ça va nous convoquer au plus profond de nous, et dans des émotions qui sont très puissantes et authentiques en fait, qui nous obligent presque à voir et à nous occuper de zones entières en nous qui étaient négligées, abandonnées ou ravagées. Et c'est ce qu'on appelle une métanoïa, c'est-à-dire vraiment une plongée dans l'ombre, dans la révolte, dans la mélancolie, dans plein de voilà, d'émotions très très intenses, mais très profondes, et qui peut amener littéralement du coup une conversion. Donc c'est-à-dire une réorientation des valeurs, une sorte de poussée miraculeuse à un endroit, de percée, voilà, de lumineuse, si vous préférez. Parce qu'en fait, il y a des choses qui poussent dans l'ombre. L'ombre est fertile, il y a des choses qui mûrissent aussi, qui sont au travail, qui mûrissent en secret. Et donc l'ombre, ça va vraiment être un lieu de dévoilement radical de l'être qui du coup nous permet d'avoir de nouveau des points de contact aussi fondamentaux. Je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai amené ce
mal. C'est beau l'ombre. Moi je dis parce qu'une fois quand je marche, j'ai de voir l'ombre. Oui. Je marche d'ailleurs en regardant par terre. Oui. Je ne vois pas les gens qui me connaissent, qui me disent bonjour, c'est mon Dieu qui est-ce.
Oui.
Je regarde et les ombres, c'est magnifique.
C'est ça.
Mais c'est l'obstacle que rencontre la lumière, l'ombre. Non, c'est l'obstacle que rencontre la lumière.
Ben c'est ça, mais et en même temps, à l'ombre, il y a des choses qui poussent et qui mûrissent, comme les champignons, il y a des fleurs. En fait, c'est, là, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est vraiment dommage, mais je ne sais pas si vous connaissez Pascal Quignard. Et L'homme aux toilettes, c'est un livre absolument magnifique. Et il parle de l'ombre, page 106, je crois. Et je m'étais dit que si j'avais du temps, je vous lirais. Alors peut-être plus tard, j'ai du temps. Parce que franchement...
Est-ce qu'on lui accorde du temps?
Et voilà, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Et voilà. Et c'est, pour moi, cette distinction, vraiment, elle est fondamentale entre la laideur et le passage par l'ombre. Parce qu'il ne s'agit pas du tout, c'est pas un espèce voilà, et la parole de Saint-Germain n'est pas du tout une parole simpliste qui va venir balayer d'un coup tout ce qui nous anime de plus dur et voilà, de l'ordre d'émotions très difficiles, etc. C'est pas du tout ça, c'est pas... Mais je pense que cette distinction est importante à comprendre. Et donc, le livre de Quignard, alors... grands reporters étaient les bombardiers de la Seconde Guerre. Les photographies aériennes qui résultèrent des bombardements anglo-américains sur la côte ouest de l'Europe montrèrent que les châteaux de Normandie écrivaient sur le sol la lettre initiale du nom que leurs bâtisseurs venus des îles noroises du Nord et du volcan d'Islande porté jadis. L'ombre, toute ombre dans la surface que le soleil éclaire, écrit lentement sur la terre la même forme singulière à chaque heure. L'ombre vient aux arbres avec les feuilles au fur et à mesure qu'elle se multiplie et se déplie sur les branches qui retombent du tronc. Cette trace du temps s'accroît dans l'espace et grandit à leurs pieds. L'ombre progresse, arbre par arbre, suivant chaque essence au cours du printemps. Soudain, elle apporte avec elle l'été qui la réclame. Plus le temps avance, plus la ramure augmente, plus l'ombre dans les racines se fait profonde et lente et ample. Plus nombreux les femmes et les hommes qui s'y rassemblent et qui s'y protègent des rayons du soleil qui lui-même s'élève et se fait de plus en plus chaud et torride au fond du ciel. Voilà. Pascal Quignard, L'homme aux toilettes, vraiment, petite parenthèse, un livre magnifique que je vous conseille vraiment.
Il y a L'éloge de l'ombre de Tani Zaki.
Ah, attends, je l'ai noté.
Un petit livre qui est en vente, Archipel, Place des Oraux.
Pour l'instant, c'est précis. De la tunique.
Tani Zaki, L'éloge de l'ombre.
C'est le japonais?
Oui.
Oui, c'est ça. Il est passionnant ce livre.
Ouais, passionnant.
Voilà, donc j'arrive à la toute dernière partie, après je libère les paroles. voilà, donc pour elle, bon, vous l'avez compris, tout ce qui va nous composer quelque part va aussi composer le monde. Et cette qualité d'être passe aussi pour elle par l'utilisation du langage. Là, j'ai envie de dire merci Christiane, ça a été comme un bon défouloir pour moi par rapport à beaucoup de débats que j'ai en ce moment sur la crise du langage actuel, et ça m'a fait un bien fou, voilà, de lire ce passage. Car le verbe aussi est créateur de notre réalité. Et alors nous savons aujourd'hui, ça c'est ce qu'elle dit, entre guillemets, que la pire inflation n'est pas monétaire mais sémantique, que l'empire des mots est dévasté. Cette crise du langage, donc on subit les effets dévastateurs sans le savoir, donc en prenant en otage des mots dont le sens va être systématiquement réduit, simplifié, monosémique, c'est-à-dire un mot, un sens, lourdement connoté et souvent mis au service du coup de la marchandisation de l'homme. Et alors là, je peux pas ne pas vous lire, je peux pas résister au fait de vous lire quand même ce passage.
Sans autorisation.
Sans autorisation, c'est-à-dire là, je mets mon... c'est mon autorité suprême. Voilà. C'est mon autorité suprême. Voilà. Alors, donc, il y a des mots qu'on n'ose plus prendre en bouche, des mots superbes dont la propagande politique ou marchande s'est emparée. Je me souviens d'une campagne d'hostilité aux étrangers en Suisse, dans les années 70, dont la devise était « vigilance ». Prise d'otage, dont la victime est un mot. Et quel mot ? Partout, cette parole souillée, cette parole manipulée, manipulatrice, usurpée, vendue, ces simplicismes féroces, surenchères de cynisme et de mensonge, ce vomi de démagogie, ce piégeage systématique d'immenses champs sémantiques, ces chantages de toutes sortes, si vous aimez votre enfant, voilà ce qu'il faut lui acheter. Beaucoup plus subtil et non moins empoisonné, et l'effarante confusion idéologique d'un certain discours émancipatoire, partant d'une notion, par exemple, ainsi sacro-sainte, pardon, excusez-moi, par exemple, aussi sacro-sainte que la liberté. Comment pourrait-on être, pour donner un exemple, contre la libération des femmes ? Mais juste un instant, s'il vous plaît. Hein, ce n'est pas un faux, je l'ai passé avec comme ça. La libération de qui et de quoi ? S'agit-il d'une liberté qui permet au plus haut potentiel de l'être de s'épanouir, ou s'agit-il seulement, en détruisant le clan et la tribu, de vendre un maximum de machines à laver ? Voilà, donc, bon, encore une fois, mon compagnon m'a déconseillé de lire la suite, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà. Voilà, bon, mais bon, voilà, ça m'avait marqué. Bon. Donc voilà, tout ça va participer à une forme de décentrement de l'être et ce qu'on pourrait appeler un rabotage intérieur, quoi, à force de ruminer ces mots qui sont récupérés et de les utiliser comme tels. Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est donc bien l'écho que nous donnons nous-mêmes à la parole dévastée en l'adoptant qui l'a fermée. Ce qu'il s'agit bien d'extirper, c'est ce qui résonne à l'intérieur de nous de cette destruction dehors. Comment ne pas nourrir davantage cette noirceur qui est en moi, mais la décourager par toujours plus de clarté. Donc ce langage antipoétique qui vient nourrir une certaine mécanisation des rapports humains, et les affadir est aussi, et là je vous reprends ça juste pour l'anecdote, parce qu'elle cite un moment Christian Bobin, qui va citer, donc là je la cite, qui cite l'interview d'un chef d'entreprise qui, interrogé sur sa vie de famille, réplique en excluant de son langage, comme il se faut pour un chef d'entreprise, toute émotion. Et il dit « Ma femme est un facteur important de mon équilibre. 800 ans de lyrisme en Occident pour aboutir à cet homme qui traite la femme qu'il aime de facteur. » Donc aussi, c'est pas un hasard, et ça m'avait marqué aussi, si en fait parmi les 4 des 10 non-vertus tibétaines, il y en a 4 des 10 qui vont porter sur le langage. C'est-à-dire langage mal employé, langage grossier, langage ça. Et ça va figurer à côté du meurtre et du vol, vous voyez ? Donc c'est ça, ça m'avait marqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à l'œuvre de... voilà, d'ailleurs elle le dit elle-même justement. Elle dit « Notre société se meurt de cette parole générale échangée comme des billets ou des jetons d'un jeu qui n'a pas cours. Cette parole objective, de paille sèche, anonyme, qui nous vide, a peut-être sa place dans certains secteurs de description scientifique où elle décrit des systèmes fermés, artificiellement isolés de l'ensemble, mais certainement pas pour décrire le vaste miroitement de corrélations mouvantes dont la réalité est faite. » Donc la question maintenant qui se pose, c'est de savoir comment se réconcilier avec cette dimension rédemptrice de la parole et réhabiliter ces mots qui, pour elle, sont mal employés, usés. Donc réinventer un langage qui puisse bénir le monde et retrouver une langue vivante et poétique qui procède par touche et par résonance, une langue amoureuse. Donc comment aider les mots à procéder à ce nettoyage de l'être, de toutes les aigreurs qui nous empoisonnent, comment vider leur excès de sens pour revenir à du neuf, et comment traduire finalement toutes les nuances absolument infinies et subtiles qui vont colorer l'existence humaine, toutes ces fluctuations imprévisibles, comment utiliser finalement le langage comme une médiation de l'invisible au visible. Et c'est peut-être justement à cet endroit qu'on peut appeler au secours la poésie. Cet endroit où peut-être on peut être convoqué. Parce que le poète, dans cette manière insolite qu'il a d'associer les mots, de venir chambouler la langue pour lui conférer une absolue nouveauté, soudain va faire éclater la surprise, l'étonnement. Mais il va aussi créer de vastes espaces de silence où les mots pourront soudain respirer et faciliter notre immersion dans la présence, ouvrir des perspectives inédites, générer cette alchimie magique, quelque chose qui va nous régénérer, ou même pouvoir à un moment nous consoler de l'inconsolable. Voilà, parce que la poésie va à un moment résonner au plus proche de nos affects et traduire ce qui est ce qu'on ne peut pas en fait venir aplatir en fait. Et le langage qui aplatit nos affects nous rendent comme dans une solitude en fait absolue face à ce qu'on ressent sans que le verbe à un moment vienne nous chercher à l'endroit où dans ce que nous vivons en fait. Et donc je finis sur cette citation. C'est le grand chaos que encore un lapsus intéressant. C'est le grand cadeau que fait le poète ça, j'adore. Par une association neuve, car la magie n'est pas que dans les mots, elle est aussi dans la manière de les agencer, une manière inimitable de les mettre ensemble, de les voir se soutenir les uns les autres, s'exalter, se mettre en lumière, ou au contraire se fondre, se cacher, se tendre des masques, s'effacer derrière d'autres et n'en dépasser que par un halo. Quand j'entends quelque chose de cette nature qui m'émeut, une envie furieuse, ardente, me prend de courir à la rencontre de la vraie vie. C'est comme si cette vibration, une fréquence d'onde avait atteint mon cœur de pierre et l'avait fendu. Voilà.
Merci. Merci.